Le procès de Bobigny. Quatrième épisode. Réquisitoire et plaidoirie.
La parole a donc été donnée à l'ensemble des témoins qui ont été cités à cette audience. Si aucune des parties n'a quoi que ce soit à ajouter au débat, je clôture l'instruction de cette affaire et donne la parole à monsieur le procureur pour ses réquisitions.
Merci, monsieur le président. Je dois dire que le ministère public se sent un peu seul après un tel défilé de témoins et face à une salle aussi garnie pour s'opposer à une loi. Une loi que l'on a traitée tout à l'heure de scélérate. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'affaire qui est soumise au tribunal. Et cette affaire concerne trois personnes. Madame Bambuc, Madame Sausset et Madame Chevalier. Et c'est de leur cas, et uniquement de leur cas, que votre tribunal doit se préoccuper. Je rappelle les faits. Ils se sont produits fin 1971. En août de la même année, la jeune Marie-Claire, alors âgée de 16 ans, se trouve enceinte à la suite d'un rapport sexuel qu'elle a eu avec un de ses camarades. Elle décide d'avorter alors que sa mère avait, dans un premier temps, accepté de conserver et d'élever l'enfant malgré les lourdes charges qu'elle a déjà. Mais Marie-Claire exige de sa mère qu'elle effectue des démarches pour chercher une avorteuse. Celle-ci s'adresse à une collègue de travail, Madame Sausset, toutes deux travaillant à la RATP, qui, grâce à des relations d'enfance, la met en contact avec Madame Bambuc. Et en novembre, cette dernière procède à des tentatives d'avortement à l'aide d'un spéculum et d'une sonde. Elle vient à 5 reprises et à la 5e tentative, elle provoque l'avortement. Le 19 novembre 1971, Marie-Claire se trouve mal. En pleine nuit, elle est transportée d'urgence à la clinique Saint-François à Paris pour finir l'avortement. Elle subit un curetage et le chirurgien qui l'a soignée lui dit alors qu'elle vient de risquer sa vie. Voici, messieurs, les faits tels qu'ils sont. Quels sont les arguments en défense ? Madame Bambuc, pour sa part, reconnaît et regrette les faits. Madame Chevalier, bien que nous disant avoir suivi l'idée de sa fille, ne s'en est pas moins rendue coupable de complicité de l'avortement, puisque c'est elle qui l'a organisé. Elle dit principalement pour sa défense que sa fille n'aurait pas eu de rapport sexuel volontaire avec le jeune homme, lequel serait un mauvais garçon. Ces affirmations, qui ont été faites bien tardivement, paraissent difficiles à croire. Il est en effet curieux que la jeune fille ne l'ait jamais indiquée aux enquêteurs, ni aux juges d'instruction quand elle fut entendue. Devant eux, il n'a jamais été question de viol, ni de la moindre violence. Cet argument, qui n'est de ce fait étayé par aucun élément, ne me paraît pas recevable par le tribunal. Dernier argument de Marie-Claire, elle ne pouvait garder cet enfant car elle était jeune et étudiante à l'époque, sans travail, et que sa mère elle-même avait des difficultés d'ordre matériel et qu'elle ne pouvait, après avoir élevé seule 3 enfants, subvenir aux besoins d'un 4e. Enfin, il y a Madame Sausset, qui, elle, ne dénie pas non plus sa responsabilité. Elle était même, par principe, attachée à la vie et contre l'avortement. Pour autant, elle a pris en pitié la situation de son amie et c'est la raison pour laquelle elle l'a mise en contact avec Madame Bambuc. Au-delà des moyens de défense présentés par chacune des 3 inculpées, il y en a un plus fondamental qu'elle n'invoque pas elle-même explicitement, mais que leur défense soulève comme un principal argument. C'est celui selon lequel le délit poursuivi ne devrait pas être réprimé, car la loi qui interdit l'avortement serait périmée. Je me bornerai à dire en réponse qu'il n'appartient pas au juge d'abroger la loi. ni de la modifier, ni de dire qu'elle ne sera pas applicable si le délit est établi. Et ce, en vertu d'une règle supérieure qui est celle de la séparation des pouvoirs. C'est le Parlement qui fait les lois et les magistrats qui les observent. C'est pourquoi je vous demande d'appliquer l'article 317 du Code pénal qui est toujours en vigueur. À ce sujet, l'on ne pourra pas prétendre que la relaxe dont Marie-Claire Chevalier a bénéficié devant le tribunal pour enfants soit en quoi que ce soit due au caractère inapplicable de cette loi. En effet, dans son jugement rendu le 11 octobre 1972, le tribunal pour enfants de Bobigny a dit, très exactement, « Attendu que Marie-Claire, écolière à peine âgée de 16 ans, non préparée à l'état où elle se trouvait, ni avertie des risques qu'elle encourait, n'a pas librement et délibérément choisi d'accomplir l'acte qui lui est aujourd'hui reproché, qu'elle a souffert de contraintes d'ordre moral, familial et social auxquelles elle n'a pas résisté. Relax. » Le tribunal a donc relaxé Marie-Claire pour des motifs qui lui sont strictement personnels. Il a estimé qu'elle a agi sous l'effet d'une contrainte et il n'a fait qu'appliquer l'article 64 du Code pénal. Vous remarquerez, messieurs, que ce même jugement constate l'existence de l'avortement et que cette constatation vous permet de retenir dans les liens de la prévention les trois personnes ici présentes qui, elles, ne peuvent pas se prévaloir d'une pareille contrainte. Voilà, me semble-t-il, ce qui s'impose au tribunal sur le plan juridique. Pour terminer, je ne voudrais pas fuir le débat qui souhaite être engagé par la défense, visant à modifier l'article 317 du Code pénal qui interdit les avortements. Je reconnais bien volontiers à mon tour que les avortements clandestins sont un fléau national. Mais si on a fait une évaluation des avortements clandestins, pourquoi ne pas avoir compté les femmes qui, après avoir maudit leur ventre pendant 9 mois, ont été finalement très heureuses d'avoir un enfant ?
Fallait les faire citer !
La femme qui s'est prêtée à la contraception et à l'avortement est-elle forcément heureuse ? Est-elle certaines, après avoir observé les règles du planning familial, qu'elle pourra avoir un enfant quand elle le désirera? L'enfant non souhaité est-il forcément moins aimé qu'un enfant souhaité? On souhaite un enfant, mais quand il est né, on n'est pas sûr qu'il sera comme celui qu'on aurait voulu avoir. La loi actuelle est-elle si mauvaise qu'on le dit ? Elle est basée sur le respect de la vie, sur le respect de soi-même et sur le respect d'autrui. Il faut songer que tous, tant que nous sommes, riches ou pauvres, érudits ou incultes, nous sommes tous passés par l'état de fœtus et il faut le dire avec une certaine modestie, que nous ayons été désirés ou non. Nous sommes en général tous heureux de vivre. Si nos parents avaient connu la liberté de l'avortement, il est probable qu'un certain nombre d'entre nous, même parmi les meilleurs, ne seraient pas de ce monde. Voilà pourquoi, messieurs, en conscience, je vous demande d'appliquer l'article 317 du Code pénal. Il est temps à présent de donner mes réquisitions. Pour Madame Bambuc, tout d'abord. Elle n'est poursuivie ici que pour un seul avortement. Je reconnais qu'elle a eu des malheurs. Je vais vous demander de prononcer contre elle une peine qui ne soit pas une simple peine de principe. Je pense qu'une peine d'emprisonnement avec sursis, assortie d'une amende égale à la rétribution qu'elle a perçue pour cet avortement, serait juste. En ce qui concerne ensuite Madame Chevalier, elle a eu une lourde responsabilité dans cette affaire. C'est elle qui a fait les démarches, qui a participé à une partie de l'avortement. C'est elle qui, en conscience et délibérément, a joué avec la vie de celle qu'elle appelle sa petite fille. C'est vrai qu'elle a aussi rencontré des difficultés. C'est une honnête femme. Vous lui reconnaîtrez bien sûr des circonstances atténuantes. Mais je vous demande de prononcer à son encontre une sanction qui ne soit pas que de principe. Enfin, en ce qui concerne Madame Sausset, les faits qui lui sont reprochés sont un peu à l'écart du délit lui-même. Elle a servi d'intermédiaire. Je vous demande donc d'envisager à son égard qu'une simple sanction de principe. Telles sont mes réquisitions, Monsieur le Président.
Je vous remercie, Monsieur le Procureur. La parole est à la Défense, dans l'ordre qu'elle souhaitera.
Monsieur le Président, Messieurs, je commencerai.
Maître Cauchy, c'est à vous.
J'ai l'honneur de me présenter devant vous, dans l'intérêt de ma cliente, Madame Bambuc. Une loi existe qui réprime l'avortement. Cette loi, nous nous en sommes rendus compte, est très diversement critiquée. Je pense que nous sommes sans doute à la veille d'un changement en la matière. Mais en l'état, si je reconnais, messieurs, que vous n'êtes pas le législateur et que vous devez respecter les textes qui sont force de loi, vous ne pouvez pas ne pas prendre en considération le fait que des changements substantiels en la matière vont intervenir. Et surtout, vous devez, en votre qualité de magistrat, humaniser la loi. C'est-à-dire tenir compte, pour son application, de toutes les circonstances humaines de l'affaire, ainsi que de l'évolution des mentalités dans la société, au nom de laquelle, je vous le rappelle, vous rendez justice. C'est dans ce contexte que je veux me placer pour exposer le cas de Madame Bambuc. Madame Bambuc a opéré un avortement sur la personne de Marie-Claire Chevalier. Elle n'a jamais dénié sa responsabilité dans cette affaire. Elle a reçu pour cela la somme de 1200 francs. Je dois même faire observer au tribunal qu'elle a spontanément, hors de toute contrainte, reconnu par ailleurs qu'elle avait déjà pratiqué un autre avortement. Je pense que cette franchise de la part de ma cliente doit être appréciée à sa juste valeur par le tribunal, qui doit considérer que Madame Bambuc n'est donc définitivement pas une avorteuse professionnelle, mais une avorteuse purement occasionnelle. Et je sais gré à Monsieur le procureur de la République d'avoir lui-même relevé les grandes difficultés rencontrées dans sa vie. Elle n'en demeure pas moins une femme de saine moralité. Et vous devrez considérer que si elle agit à deux reprises, c'est qu'elle a estimé à deux reprises, en conscience, que l'acte qui lui était soumis méritait la pitié, la compréhension et donc l'intervention. Vous allez me dire, oui, elle a été payée pour cela. Et c'est vrai. C'est vrai, elle a été payée. Elle a accepté de l'argent. Mais pourquoi a-t-elle accepté cet argent? Ma cliente l'a dit tout à l'heure. Elle devait assurer l'entretien de ses deux enfants. Et un mot sur son mari, que nous n'avons pas encore ici évoqué, M. Bambuc, traité pour tuberculose quelque temps, puis malade de la lèpre. Lorsque l'état de santé de cet homme est devenu infernal, il s'est suicidé. Madame Bambuc est alors restée seule avec ses deux enfants. Elle s'est mise à travailler encore plus durement. Si elle a accepté ces 1200 francs, c'est qu'il y avait encore un arriéré d'impôt qu'il fallait qu'elle paye. Elle était acculée. Et cela n'ôte rien au fait que Micheline Bambuc est intervenue auprès de Marie-Claire Chevalier avant tout par humanité. Voilà les grandes difficultés qu'elle a rencontrées, auxquelles est venue s'ajouter la très grave opération qu'elle vient de subir cet été pour une tumeur au cerveau, que le tribunal ne peut pas ne pas retenir pour apprécier ses responsabilités et lui accorder les plus larges circonstances atténuantes. Je voudrais, pour finir, ajouter que si le tribunal doit entrer à l'égard des autres co-inculpés en voie de relax, on comprendrait mal qu'une telle mesure de relax ne soit pas aussi prononcée également à l'égard de ma cliente. Car si la relax est prononcée à l'égard de l'organe de décision, il ne peut être retenu également à l'égard de l'organe de l'exécution. C'est ce qu'impose la loi pénale. Je vous remercie pour votre attention.
Merci, Maître Cauchy. Qui va plaider à présent ?
C'est moi, Monsieur le Président.
Allez-y, Maître Antoine.
J'ai l'honneur d'assister Madame Sausset, qui n'a pas eu, elle non plus, une vie facile. C'est par hasard que Madame Sausset a été conçue, avant d'être abandonnée à l'assistance publique par sa mère, Alice Sausset, 3 semaines après sa naissance. Sa mère était une mère célibataire. À l'âge de 8 mois, Madame Sausset est placée chez des parents nourriciers. Elle va à l'école jusqu'à 14 ans et obtient son certificat d'études. Puis elle entre dans une maison, à l'âge de 15 ans, comme bonne à tout faire. Elle gagne pauvrement sa vie. 4 ans plus tard, à 19 ans, elle est placée par l'assistance publique à la tutélaire, qui est une ancienne maison de redressement, où elle prend des cours de français et de sténographie. Quand elle a 21 ans, Madame Sausset se fait remettre son certificat d'origine par l'assistance publique afin de rechercher sa mère. Au bout de 3 mois de démarches incessantes et difficiles pour elle, qui était sans argent, elle la retrouve, cette mère, qui est une commerçante à Aulnay-sous-Bois. Heureuse et naïve, Madame Sausset lui dit « Vous ne me reconnaissez pas, je suis votre fille ». La mère pousse alors un cri, non de joie, mais d'angoisse. Mon mari ne l'a jamais su. Elle a revu sa mère 4 ou 5 fois, mais elle a compris qu'elle dérangeait ses habitudes et elle ne l'a plus jamais revue. Sa mère l'a ainsi abandonnée une seconde fois. Madame Sausset se marie à 22 ans et elle a une fille. Mais elle divorce et du coup, elle travaille et élève seule son enfant. Depuis 1956, elle travaille à la RATP, où elle a un salaire de 1750 francs par mois. Elle est contrôleur debout. Madame Sausset était contre l'avortement. Elle a tenté de persuader son amie, Madame Chevalier, de garder l'enfant, lorsque celle-ci lui a demandé conseil. Puis elle a pris pitié. C'est ainsi qu'elle a, dominant, son premier mouvement, donner à son ami le renseignement qui l'amène aujourd'hui à paraître devant vous. Cette femme, qui a été une enfant non désirée, une enfant abandonnée, qui a beaucoup rêvé de sa mère, qui croyait la voir dans tous les visages des touristes qui séjournaient dans le village où elle a passé son enfance et qui a fait toutes les démarches pour la retrouver, sa mère, et qui, l'ayant retrouvée, n'a rencontré qu'une inconnue. Cette femme a finalement consenti à cet avortement. Cette femme, qui est une mère exemplaire, messieurs, a été émue par la détresse d'une autre femme. Elle a obéi, messieurs, à un sentiment que vous ne pouvez pas condamner, la générosité. Elle vous l'a dit elle-même. Être complice d'un avortement et être complice d'un abandon d'enfant à l'assistance publique. Je n'ai pas hésité, j'ai préféré être complice d'un avortement. Cette femme, messieurs, est pour la libre maternité. Ce n'est pas un hasard si dans cette affaire exemplaire, vous avez devant vous 2 femmes abandonnées dans leur enfance à l'assistance publique. Messieurs, aujourd'hui, ce n'est pas au procès de la délinquance auquel vous avez affaire, mais au procès de la maternité réprimée. C'est le procès de toutes les femmes qui, en France, en 1972, n'ont pas le droit de choisir. C'est le procès du droit à l'éducation sexuelle, du droit à la contraception, du droit à l'avortement, droit pour lesquels les femmes sont entrées en lutte. Il est important de rappeler que nous ne nous trouvons pas dans n'importe quel tribunal aujourd'hui, mais devant le jeune tribunal de Bobigny. C'est ce tribunal qui a suivi dans leur exode les familles ouvrières chassées du Paris riche, ces femmes des HLM. C'est aussi ce tribunal qui a relaxé Marie-Claire. Croyez-vous sérieusement que l'opinion publique de ce pays accepterait, comprendrait qu'elle ne soit pas relaxée, qu'elle soit condamnée pour les mêmes faits, ces femmes qui viennent devant vous, parce qu'elles n'avaient pas le droit de choisir? On nous a dit tout à l'heure que l'avortement était le fait du choix de femmes modernes, de femmes de notre temps. Mais l'avortement a toujours existé dans tous les temps, dans tous les pays, dans toutes les civilisations. L'interdiction de l'avortement est un produit de la philosophie chrétienne, puisqu'avant le christianisme, la plupart des civilisations le pratiquaient. Une femme, dans l'Antiquité, qui se faisait avorter, n'était pas condamnée. De nos jours, l'avortement est pratiqué dans tous les pays, y compris dans les sociétés dites primitives, qui ont accepté l'avortement libre avec des législations différentes. La France a, sur cette question, le privilège d'avoir le texte le plus répressif. Alors, quel jeu fait-on jouer aux magistrats en les obligeant ici à juger en vertu d'une loi qui est inadaptée et par là même inapplicable? Une loi dans laquelle personne en France ne croit plus. Messieurs, dans le silence de votre délibéré, vous allez avoir à juger Madame Saucet. Je ne sais pas ce que vous déciderez, mais vous avez compris que je vous demande sa relaxe.
S'il vous plaît. S'il vous plaît, allons. Allons. S'il vous plaît. Bon. S'il vous plaît. Merci, Maître Antoine. Je rappelle au public qu'il ne peut manifester en aucune façon et que sinon, je serai contraint de faire évacuer la salle. Oh, eh bien, il vous reste, Maître Halimi, à conclure cette affaire.
Messieurs du tribunal, il m'échoit aujourd'hui un très rare privilège. Oui, je ressens avec une plénitude jamais connue à ce jour un parfait accord entre mon métier qui est de défendre, qui est de plaider, et ma condition de femme. Jamais autant qu'aujourd'hui je ne me serais sentie, comme nous disons dans notre jargon, toute cause confondue, à la fois inculpée dans le box et avocate à la barre. Oui, je ressens une solidarité fondamentale avec ces trois femmes et avec toutes les autres. Je m'identifie précisément et totalement avec Madame Chevalier et avec ces deux femmes que la loi appelle des complices, avec ces femmes présentes à l'audience, avec ces femmes qui manifestent dans la rue, avec ces millions de femmes françaises qui se battent pour leurs droits. Elles sont ma famille. Elles sont mon combat. Elles sont ma pratique quotidienne. Et si je ne parle aujourd'hui, messieurs, que de l'avortement et de la condition faite à la femme par une loi répressive, une loi d'un autre âge, c'est moins parce que le dossier nous y contraint que parce que je dénie toute valeur à cette loi. Je lui dénie toute applicabilité, toute possibilité de recevoir aujourd'hui et demain le moindre sens, parce que cette loi est la pierre de touche de l'oppression qui frappe la femme. Et parce qu'il y a dans la répression de l'avortement une discrimination qui joue sans partage. Celle qui frappe toujours la même classe, celle des femmes pauvres, vulnérables économiquement et socialement, cette classe des sans-argent et des sans-relations. Voilà 20 ans que je plaide, messieurs. Et je n'ai encore jamais plaidé pour la femme d'un haut commis de l'État, pour la femme d'un médecin célèbre, ou d'un grand avocat, ou d'un PDG de société, ou pour la maîtresse de ces mêmes messieurs. Elles ne sont jamais inquiétées, car vous condamnez toujours les mêmes, les Madame Chevalier. Madame Chevalier, cet enfant naturel, et comme si ce n'était pas assez, cette mère célibataire. L'amour, pour Madame Chevalier, c'est un ouvrier qui ne l'épouse pas, qui lui fait 3 enfants en 5 ans, et qui s'en va en oubliant de les reconnaître. Elle les élève seule, sur son unique salaire d'employé de métro de 1500 francs par mois. Il lui en a fallu du courage. Madame Chevalier a toujours voulu que ses filles aient un métier, car c'est ce qui sauve les femmes seules. Elle les met toutes les 3 au collège d'enseignement technique. Son univers à elle, c'est celui des souterrains et du métro le jour et celui des HLM et des banlieues la nuit. Sa préoccupation unique, ses filles. Les hommes, elle en a souffert. C'est dire que l'on n'abordait pas très souvent la question des hommes à la maison. Et donc, l'éducation sexuelle, on n'en parlait pas. Pour elle, il était trop tôt. Pour les parents, il est toujours trop tôt. C'était sa petite fille, nous a-t-elle dit à plusieurs reprises. Et puis Marie-Claire ne lui posait pas de problème. C'est une jeune fille indépendante et sage, nous dit le rapport. Mais elle n'a pas de flirt, seulement quelques camarades avec qui elle bavarde le soir en sortant de son école. Pourtant, un soir d'octobre 1971, c'est le choc. Tous les parents pensent que cela n'arrive qu'aux autres. Marie-Claire lui annonce qu'elle est enceinte. De qui ? Daniel, 18 ans, un camarade parmi d'autres. Elle n'est jamais sortie avec lui en particulier, mais il est le seul à posséder une voiture. Et un jour, il lui propose d'aller chez lui pour écouter des disques et une fois dans l'appartement, il la brutalise. C'est la première fois qu'elle a un rapport sexuel. Et forcément, cette unique fois, elle est enceinte. Je sais, monsieur le procureur est sceptique. Il nous dit que, puisque Marie-Claire n'avait pas déclaré au cours de l'enquête qu'elle avait été brutalisée, c'est que vraisemblablement elle n'avait pas dû l'être. Monsieur le procureur connaît bien mal les femmes. Pensez qu'une femme qui a été violentée peut immédiatement aller le raconter à tout le monde, et en particulier à la police. C'est bien mal connaître la psychologie féminine. C'est ne pas savoir que pour une femme qui a été violée, c'est la honte, l'humiliation, qu'elle en parlera à mi-voix, qu'elle en parlera tout juste à son avocat. Monsieur le procureur est libre de ne pas nous croire. De toute façon, ce n'est pas vraiment le problème. Le problème de Marie-Claire, c'est que devait-elle faire de son enfant ? Elle ne veut pas de Daniel sorti de maison de redressement et condamné pour vol. Elle ne veut pas non plus de l'enfant. Elle sait trop ce qui l'attend. Tous les jours, elle a été témoin de la vie de sa mère. Exemple dur qui marque. Marie-Claire ne veut pas lui ressembler et décide de ne pas garder l'enfant. Elle vous l'a dit comme elle l'a dit au tribunal qui l'a jugé. J'étais décidée et j'ai alors parlé à ma mère. Après quelques semaines de grossesse désespérée, elle est venue se confier à elle et lui demander de l'aider. Ce jour-là, Madame Chevalier a pu croire à la fatalité. Mère célibataire, elle-même fille d'une mère célibataire, voilà que sa fille ouvrait une troisième génération de filles-mères. Et sa première action fut celle de la fatalité. Elle a proposé à Marie-Claire de garder l'enfant. C'est ce qu'elle avait fait. Mais de son temps à elle, on subissait. Or, elle, Marie-Claire, ne veut pas subir. Elle a choisi. Madame Chevalier ne peut alors pas refuser l'aide que sa fille lui demande pour avorter. Là est la complicité. La complicité de la détresse, la complicité de l'amour maternel. Je dois vous dire un mot à présent du manifeste des 343 salopes. Certaines font le renom de la littérature française. Je pense à Simone de Beauvoir, à Françoise Sagan, au théâtre, au cinéma, Françoise Fabian, Delphine Seyrig, que vous avez entendu, Catherine Deneuve, Jeanne Moreau. 343 femmes qui viennent dénoncer le scandale de l'avortement clandestin, le scandale de la répression et le scandale de ce silence que l'on pose sur ces avortements. À côté d'elles, 560 médecins ont signé un manifeste pour se déclarer en faveur de la liberté de l'avortement en disant « Nous nous rendons coupables de non-assistance à personne en danger en laissant se commettre des avortements clandestins tous les jours. » Pour que Marie-Claire, qui s'est trouvée enceinte à 16 ans, puisse être poursuivie pour délit d'avortement. Il lui fallut prouver qu'elle avait tous les moyens de savoir comment ne pas être enceinte et tous les moyens de prévoir. C'est le problème de l'éducation sexuelle inexistante. Pourquoi ne pratique-t-on pas l'éducation sexuelle dans les écoles puisqu'on ne veut pas d'avortement ? Pourquoi n'existe-t-il pas en France une contraception véritable, publique, populaire, gratuite ? Que faut-il faire alors ? J'ai posé la question à de nombreux médecins qui tous m'ont répondu : il n'y a que l'avortement. Voulez-vous contraindre les femmes à donner la vie par échec ? Par erreur ? Par oubli ? Est-ce que le progrès de la science n'est pas précisément de barrer la route à l'échec, de faire échec à l'échec, de réparer l'oubli, de réparer l'erreur ? Cette loi doit disparaître, car elle ne colle plus à la réalité. Elle est contraire fondamentalement à la liberté de la femme, depuis toujours opprimée. Trois femmes aujourd'hui comparaissent devant trois hommes. Et pour parler de quoi ? De sonde, d'utérus, de ventre, de grossesse, d'avortement. Ne voyez-vous pas que l'injustice fondamentale et intolérable est déjà là dans cette situation ? Est-ce que vous accepteriez, vous, messieurs, de comparaître devant des tribunaux de femmes simplement parce que vous auriez disposé librement de votre corps? Cela vous paraîtrait démentiel. L'acte de procréation est l'acte de liberté par excellence. Et personne n'a jamais pu obliger une femme à donner la vie quand elle a décidé de ne pas le faire. L'acte de donner la vie, comme l'acte de ne pas la donner, est un acte volontaire. C'est un acte de responsabilité. Nous sommes des êtres libres et responsables, tout comme les hommes. Et puisque nous devons donner physiologiquement la vie, il faut que nous le décidions en être libres et responsables, sans le contrôle de personne. Messieurs, au nom de toutes les femmes, Je vous prie de faire le choix du courage, de prendre le chemin qui a déjà été tracé par ce même tribunal pour Marie-Claire Chevalier. Je vous requiers de prononcer une relaxe générale. Madame Chevalier, comme Madame Sausset, comme Madame Bambuc, doivent toutes être relaxées.
S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vous remercie, Maître Halimi. Je vous prie, mesdames, de bien vouloir vous lever et de revenir à cette barre. Avez-vous quelque chose à ajouter à ce qu'ont dit vos avocats, Madame Chevalier?
Non, rien, Monsieur le Président.
Madame Sausset.
Moi non plus, j'ai rien à ajouter. Mon avocate a tout dit ce qu'il fallait dire.
Madame Bambuc.
Je voudrais dire au tribunal que je regrette sincèrement d'avoir enfreint la loi, même si je n'ai pas eu conscience d'avoir mal agi. Mais je ne recommencerai plus. Jamais plus je ne me mêlerai d'une telle histoire.
Bien. L'affaire est mise en délibéré. Le jugement sera rendu à quinzaine. Monsieur le procureur, avez-vous d'autres réquisitions ?
Non, je n'ai plus de réquisitions, monsieur le président.
L'audience est donc levée.